Chapitre 27, un prédicateur respecté. Une influence et une réputation gâchées, frère H, j'ai quelque chose à vous dire. Mon frère, vous avez joui dans l'église de l'estime des personnes âgées et jeunes. Pourtant, Dieu condamne votre attitude. Vous ne possédez pas son esprit, et vous n'êtes pas un homme libéré. À cause de votre conduite, on a critiqué même ce que vous avez fait de bien. Je préférerais pour $1000 que ne soit jamais arrivé ce qui s'est passé à la réunion de l'école du sabbat de Piémont. Vous, un homme aux cheveux gris, allongé, la tête sur les genoux de Géorgie S. Si j'avais fait mon devoir, je vous aurais repris à ce sujet. Bien des témoins de cette scène m'en ont parlé. Après de semblables spectacles, que vaudront vos avertissements adressés aux membres pour les amener à se garder de ces familiarités et libertés? Par votre exemple, vous avez réduit à néant vos efforts destinés à édifier les jeunes. Votre familiarité envers Sœur S. et sa famille a fait l'objet de remarques. Comment pourriez-vous vous attendre à exercer une influence sur les jeunes, en tant que père, en faisant preuve d'un tel manque de bon sens et d'une telle faiblesse? Si vous vous étiez contenté d'être un homme de votre âge au lieu de jouer à l'amoureux sentimental, si vous aviez pris garde à vous-même, Dieu ne vous aurait pas retiré sa sagesse comme il l'a fait. Votre réputation vous aurait été plus précieuse que votre vie. Mieux vaut, de beaucoup, descendre dans la tombe avec un honneur intact, plutôt que de vivre avec un nom entaché de honte. Quand le Seigneur ne règne pas en maître, mon frère, réfléchissez maintenant aux années que vous avez vécues dans un amour coupable avec la femme d'un autre. Vous avez une fille désireuse de vous entourer de ses prévenances et de son affection, de vous offrir un foyer. Mais vous avez perdu la tête au point de trouver désagréable et insipide tout ce qui est raisonnable et bienséant. Je ne pense pas que le charme soit rompu et que vous soyez libéré. Vous n'avez pas brisé le piège. Le Seigneur ne règne pas sur vous en maître. Quelle folie pour vous, mon frère, de vous croire sage pour discerner les choses spirituelles, alors que votre sens moral s'est affaibli de plus en plus au cours des années, et que vous vous êtes séparé du Dieu de sagesse. Vos lettres à votre femme sont blessantes et dures. Il n'est ni judicieux ni juste de votre part de la priver dans une large mesure de votre soutien. N'avait-elle pas raison de se montrer jalouse quand elle était à Auckland? N'a-t-elle pas vu l'intérêt et l'amour que vous portiez à Sœur S? Et maintenant, pour l'amour du Christ, évitez de condamner sévèrement les autres, preuve de votre part d'un esprit qui n'est pas celui du Christ. Je vous l'écris nettement, sentant que vous avez besoin de faire un effort plus résolu avant de paraître libre devant Dieu. Toute votre violence et votre arrogance viennent de votre mauvaise volonté. Humiliez-vous sous la main de Dieu. Assurez-vous sa faveur, et éloignez de vous le péché. Il en est peu qui savent jusqu'où est allée cette familiarité, et Dieu fasse qu'on l'ignore, tout comme le préjudice porté à la cause du Seigneur et à votre âme. Je vous supplie de ne pas prononcer un jugement sur quelqu'un d'autre que sur vous-même. Pour le bien de la cause, cher frère Butler, je vous ai entretenu tout à fait librement de certaines choses, croyant devoir le faire. J'ai bien envie de préserver désormais ma tranquillité. Mais comme je ne m'appartiens pas et que je suis parfois obligé d'écrire, je n'ose parler de la sorte. J'ai pour unique but de présenter ce qui est bon, non seulement pour la cause et l'œuvre de Dieu aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. Comment résisterai-je à cette force qui me pousse à écrire, alors que la charge m'en est imposée? Il me faut réfléchir sur ces choses, prier à leur sujet et obéir aux impulsions de l'Esprit de Dieu, ou bien me retirer en me séparant complètement de l'œuvre. Le Seigneur sait que ce genre de tâche ne me plaît pas. J'aime et estime mes frères, et ne souhaite en aucune façon leur faire du tort et de la peine, mais j'ai essayé d'agir en ne cherchant que la gloire de Dieu, et j'en éprouve aujourd'hui une tristesse et un trouble qui m'empêchent de voir clairement mon devoir. Réponse divine à la prière, j'ai écrit plusieurs choses à H, et il m'a répondu qu'il en était exactement comme je l'avais précisé. Ce que j'avais vu en songe m'oppressait tellement que j'ai dû me lever à 3 heures du matin pour écrire à frère H. Je lui ai dit qu'il n'avait pas tenu sa promesse, et que tout en enseignant les commandements de Dieu, il les violait, et qu'il entourait ce R.S. d'attention réservée à sa femme. Je le lui ai écrit très clairement. Il admit la véracité de mes propos, me dit avoir prié au sujet de ce problème et réalisé sa mauvaise conduite, mais sans parler d'y mettre fin. Il ajouta : Votre vive condamnation à mon propos est juste. Mais voilà quel était mon problème, il m'était très pénible de reconnaître ma culpabilité. Ma raison, mon jugement, le témoignage et les Écritures m'ont tous montré mes torts. Mais le mal avait une telle emprise sur moi que je n'ai pu le voir dans son ampleur. Je n'ai pu me résoudre à réaliser l'étendue de ma faute, et peu à peu cela devint pour moi un piège. Mais avant la réception de votre dernière lettre, pour que Dieu m'aide à discerner le péché sous son vrai jour et d'en prendre conscience, j'en avais fait un sujet de prière particulier. J'ai tout lieu de croire qu'il m'a exaucé. Si j'ai quelque expérience des bénédictions de Dieu, je sais que j'ai été béni dans cette démarche. J'avais un grand besoin de cette bénédiction pour mener à bien l'œuvre qui m'était confiée ici. Tous ont parlé du secours que le ciel m'a accordé en me permettant de rédiger le compte-rendu de l'arrestation de nos membres qui avaient travaillé le dimanche, ainsi que d'autres documents importants qui m'incombaient. Cependant, je suis douloureusement conscient de ma faiblesse et du fait que ma seule sécurité repose sur une vigilance jamais exercée auparavant. C'est pour moi, je le sais à présent, une question de vie ou de mort, et je m'efforcerai d'agir en conséquence. Les fruits d'un cœur non sanctifié, cher frère Butler, je suis perplexe en ce qui concerne frère H, car il ne me répond pas, et cela me peine beaucoup. Il me semble parfois que le Seigneur nous éprouve pour voir si nous agissons fidèlement à l'égard du péché chez un homme que nous respectons. Le temps approche où la conférence générale devra décider si elle lui renouvelle ou non sa lettre de créance. Si la conférence générale la lui redonne, cela voudrait dire, nous accordons notre confiance à un homme reconnu par Dieu et chargé de la sainte mission de veiller sur le troupeau du Seigneur, comme à quelqu'un qui sera en toute chose un fidèle berger et un représentant du Christ. Mais peut-on faire cela? N'a-t-on pas vu les fruits de ce cœur non sanctifié? Un homme ensorcelé, qu'est-ce que cette insistance de frère H? A revendiqué Madame S. comme, comment dirais-je, son pôle d'attraction? Quel nom donner à cela? Frère H. a-t-il repoussé la lumière donnée par Dieu en montrant sa préférence pour la compagnie de sœur S. et son intimité avec elle, malgré sa culpabilité face à la parole de Dieu? Ou bien a-t-il accepté le message et agi en conséquence? Malgré le témoignage que j'ai donné à frère H. de la part du Seigneur, il a proclamé par sa conduite, je veux faire ce qui me plaît à ce sujet, et il n'y a rien de mal à cela. Il avait promis à Dieu d'agir correctement, mais il a rompu la promesse faite à C.H. Jones, à V.C. White et à moi-même, et ses dispositions n'ont décidément pas changé. Il semble se comporter comme un homme ensorcelé, sous le charme du diable, incapable de résister à ses penchants. En dépit de toute la lumière accordée, il n'a montré aucune vraie conviction ou sentiment du péché, ni repentance, ni désir de réforme. Ceux qui ont souffert de cet état de choses n'avaient aucun pouvoir pour transformer son cœur et ses intentions. Perversion des facultés données par Dieu, soyons reconnaissants pour l'aide apportée par frère H. en Angleterre et en Suisse. Mais que décider à partir de là? Il nous faut la preuve qu'il est en ordre avec Dieu. Nous ne voulons pas traiter le péché à la légère et dire aux pécheurs, tout ira bien pour toi. Impossible d'engager frère H. dans l'œuvre, s'il ne s'est pas mis en ordre avec Dieu. Il serait préjudiciable d'avoir pour associé un homme aux vêtements souillés. On ne peut négliger ce point. Le fléau du péché frappe frère H. comme la peine et la tristesse frappent ceux qui connaissent son cas. Le Christ est déshonoré. Voici un homme favorisé d'une lumière et d'une connaissance supérieure, doté d'une grande capacité pour le bien, capable de mener une vie d'obéissance et de fidélité envers Dieu, qui pourrait arriver au rang des anges et dont la vie est à la hauteur des exigences divines. Pourtant, cet homme a perverti ses facultés venues d'en haut, et en est arrivé à convoiter la femme d'un autre. Le Seigneur le voit dédaigner les plus précieuses leçons de l'expérience et agir contre ses avertissements solennels, afin de pouvoir continuer à pécher. J'avais prié et espéré qu'il reviendrait à la raison et briserait les chaînes forgées par Satan autour de lui, de son âme et de son corps. J'avais aussi espéré que les nuages qui avaient obscurci son sentier se dissiperaient et que le Sauveur pourrait revivifier et bénir son âme. Le Christ ôtera le fardeau des épaules fatiguées et accordera le repos et la paix à ceux qui prendront son joug. Appel adressé à un responsable de l'œuvre, je vous le dis, frère H., que peut valoir votre expérience si, après tant d'avertissements et de réprimandes, vous persistez dans une conduite condamnée par Dieu? Pouvez-vous éprouver la paix en vous-même? Pensez à Jésus couronné d'épines et cloué à la croix pour vos péchés, et humiliez-vous, oui, brisez votre cœur. Considérez la douceur et la bonté du Christ. Puis courbez-vous dans la poussière, confus et humilié. S'il vous plaît, pensez à ce que vous feriez si l'un de nos responsables se trouvait dans la même situation que vous. S'il ne montrait pas plus de marques visibles de repentance que vous n'en avez donné, recommanderiez-vous qu'on lui attribue, comme aux hommes consacrés à Dieu, une lettre de créance? Ne voyez-vous pas que vous mettez vos collègues dans une position inconfortable et peu enviable? Se risqueront-ils à répondre de votre caractère et de votre influence future dans l'œuvre et la cause du Seigneur? Responsabilité suite à une plus grande lumière. J'ai vu que votre cas était pire que celui de frère R, parce que vous avez reçu plus de lumière, de talent et joui d'influence supérieure à la sienne. Son attitude devrait vous dissuader de suivre ses traces. Sa lettre de créance lui a été retirée. Dans une profonde repentance, il s'est humilié dans la poussière. Si David, après avoir été repris par Nathan, avait répété le même péché, aurait-il bénéficié de la compassion du Seigneur? Mais il se repentit amèrement et déclara que sa transgression demeurait toujours devant lui. Écoutez son humble confession et ses cris de désespoir. Purification du camp, en tant que peuple, nous devons nous lever et purifier le camp d'Israël. La permissivité, les familiarités illicites et les pratiques non sanctifiées se répandent parmi nous, et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent coupables de ces fautes. Ils convoitent la femme de leur prochain, et violent le septième commandement. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Comment voir clairement notre condition sans décider de remédier au mal existant? Voudriez-vous que d'autres suivent votre exemple? Souhaitez-vous les voir emprunter le même chemin sans se rendre compte de la gravité de leur conduite? Sans repentance et sans conversion, vous êtes perdus. J'apprends, frère H., que pendant que vous suivez un traitement au sanatorium, que vous servez comme aumônier et prêchez au tabernacle. Exercer de telles fonctions ne paraît pas convenable tant que vous n'avez pas mis tout en œuvre pour corriger vos fautes passées. Propre justice et corruption intérieure, par égard pour vous, je me suis retenu de dévoiler l'infidélité de Madame S. à son mari, mais je crains d'avoir négligé mon devoir. Si nous avions traité ce problème comme on l'aurait fait pour un membre laïque, je crois que Dieu vous aurait donné la repentance dont on ne se repent jamais. Notre compassion et notre amour pour vous épargner la honte vous ont froissé. Je ressens parfois à votre égard une telle tristesse et une telle angoisse, que je ne puis que pleurer. Je me dis, sera-t-il perdu? Tombera-t-il dans l'idolâtrie à l'égal de Salomon, après avoir souffert pour la vérité et l'avoir défendue jusqu'à un âge avancé? Pour l'amour d'une femme, foulera-t-il aux pieds la loi divine, au point d'en venir à déclarer, « Je ne pèche pas », j'ai tout à fait raison? Nécessité d'un changement de cœur et non de lieu, aurions-nous raison de cacher ces fautes malgré l'absence évidente de repentance et de réforme? Le fait de quitter la Californie ne vous donnera pas un cœur nouveau. Bien sûr, cela vous soustraira à la fascination de votre adorable charmeuse, mais ne modifiera en rien les sentiments et les impulsions du cœur. Frère aurait pu terminer sa carrière en paix, s'il n'avait pas cédé à des pratiques sensuelles. Mais il s'est laissé détourner par les convoitises et les séductions. Ses jours et ses années qui auraient pu être les meilleurs, furent les plus sombres. Le caractère de Salomon offre un mélange de grandeur intellectuelle et de déchéance morale. Il aurait pu grandir en puissance. Mais au lieu de cela, il s'affaiblit toujours davantage. Après une vie pleine de promesses, il offrit le spectacle de la dégradation. Au bord même du précipice, mon frère, mon cœur s'émeut à votre sujet, pour l'amour du Christ. Comme d'autres prédicateurs, vous avez tenté de concilier la lumière et les ténèbres, le Christ et Bélial, la pureté et l'impureté, le bien et le mal. Si vous ne réalisez pas que vous vous trouvez au bord même du précipice, vous irez à la ruine morale. Il existe beaucoup d'autres cas semblables que je dois signaler. Je suis alarmé de voir combien le péché de licence progresse parmi nous. Je l'ai ressenti en écrivant à frère Butler, à la conférence générale, et je l'ai supplié de barrer la route à ce danger menaçant. Il faut dresser une barrière autour des âmes, pour que rien ne vienne gâter leur innocence et leur pureté, et souiller ainsi la piété. Dieu a accordé à l'homme l'intelligence, et chacun doit prendre garde à ne pas avilir ce don magnifique, ce qui aboutitait à la ruine éternelle de l'âme. Repentance et rebaptême, le seul espoir pour vous comme pour tout autre pécheur est de vous humilier devant Dieu et de vous convertir. Inaugurez le chemin de la vie par la repentance accompagnée de foi et du baptême. Vous avez perdu la paix de la protection divine. Si vous refusez d'écouter la voix de la répréhension et choisissez votre propre chemin, sans permettre à la grâce du Christ de vous transformer, vous serez bien plus coupable qu'un simple pécheur. En effet, vous avez eu davantage de lumière et de responsabilité. Veillons avec soin sur le choix de nos fréquentations et de nos amitiés afin de ne pas mettre notre âme en péril et de ne pas donner même l'apparence du mal. Cela abaisserait aux yeux des autres le niveau de la religion et saperait le fondement de la foi. Le triste exemple de Salomon, combien, même parmi les observateurs du sabbat, entretiennent des relations coupables. Hommes et femmes se témoignent réciproquement des marques d'affection et des attentions illicites. Combien d'hommes pleins de promesses dans nos rangs ont perdu la vraie foi et la confiance en Dieu pour avoir trahi leur engagement conjugal. Les nobles aspirations sont étouffées. Ils convoitent la femme d'un autre ou entretiennent des familiarités inconvenantes avec des femmes seules, et cela les conduit à régresser. Leur conduite frivole les amène à violer le septième commandement. Il est dit de Salomon dans le texte inspiré, « Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. » L'influence du mal subsiste longtemps, ce sujet ne doit pas être considéré à la légère. Celui qui aime Jésus ne recherchera pas l'affection illicite d'une autre personne. Tout besoin est comblé en Jésus-Christ. Cette affection superficielle s'apparente à la satisfaction exaltée promise par Satan à Ève. C'est convoiter ce que Dieu a défendu. Lorsqu'il est trop tard, des centaines de personnes peuvent recommander aux autres de ne pas s'aventurer au bord du précipice. L'intelligence, la position et la richesse ne remplacent pas les qualités morales. Le Seigneur estime les mains et le cœur purs, la piété noble et sincère plus que l'or d'Ophir. Une mauvaise influence subsiste longtemps. Je désire présenter ce sujet tel qu'il m'a été montré au peuple des observateurs des commandements de Dieu. Puisse le sombre souvenir de l'apostasie de Salomon servir d'avertissement à chacun, pour lui permettre d'éviter le même danger. Sa faiblesse et son péché ont été transmis de génération en génération. Bien qu'il fût le plus grand roi jamais élevé au pouvoir, appelé le bien-aimé de Dieu, Salomon fut abandonné par le Très-Haut parce qu'il s'était souillé par des affections déplacées. Le plus grand maître de la terre n'avait pas réussi à maîtriser ses propres passions. Salomon aurait pu être sauvé comme au travers du feu, toutefois, son repentir ne put effacer les hauts lieux ni démolir ses pierres dressées, témoignage durable de ses fautes. Il déshonora Dieu, préférant être dirigé par ses désirs plutôt que d'être participant de la nature divine. Quel héritage sa vie a-t-elle laissé à ceux qui voudraient s'inspirer de son exemple pour excuser leurs actes dégradants? Nous léguons soit le bien, soit le mal. Nos vies seront-elles en bénédiction ou en malédiction? Les hommes regarderont-ils notre tombe en s'écriant, « Il fut la cause de ma perte », ou bien, « Il fut la cause de mon salut » Les prédicateurs objets des tentations de Satan, Satan dirige particulièrement ses efforts sur ceux qui ont reçu une grande lumière. Il vise à les rendre mondains et sensuels. Certains prédicateurs ont un cœur souillé par des pensées impures et des désirs non sanctifiés. Des hommes mariés et pères de famille sont des insatisfaits, et se placent eux-mêmes sur le terrain de la tentation. Ils se permettent des libertés qu'ils ne devraient prendre qu'avec leur femme. Ils s'attirent ainsi la répréhension divine, et dans les livres du ciel figure en face de leur nom le mot adultère. Il ne faut pas aller au-devant du danger. Si les pensées se dirigeaient là où elles devraient, si elles s'appuyaient sur Dieu et la méditation de la vérité, sur les précieuses promesses divines et la récompense céleste réservée aux fidèles, ils seraient protégés contre les tentations de Satan. Beaucoup entretiennent presque en permanence des pensées ignobles jusque dans la maison de Dieu, et même sur la chair. Discipline envers les prédicateurs tombés dans le péché, je dis la vérité, frère Butler, si beaucoup de ceux qui prétendent croire à la vérité et la prêchent ne purifient pas le temple de leur âme, les jugements de Dieu, longtemps différés, surviendront. On n'a pas agi à l'égard de ces péchés avilissants avec fermeté et décision. Si l'âme n'est pas purifiée de cette corruption par le sang du Christ, il se produira dans nos rangs des défaillances alarmantes. Je m'interroge, comment se peut-il que des hommes qui exposent aux autres les Écritures, des hommes dotés de grandes capacités, qui vivent dans le temps du jugement, aux frontières de l'éternité, livrent leurs pensées et leur corps à des pratiques impures? Les paroles de l'apôtre sont à souligner ici. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.